La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Ici Chérubin Dorcil et Morgane Guériec dans ce segment spécial sur la Centrafrique.
En République centrafricaine, des hommes armés ont brûlé au moins 9 villages et tué une vingtaine de civils dans la région de Paoua, dans le nord du pays. À Bangui, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, réfléchit au retour des déplacés de la capitale. Le point avec Idriss Fall.
Des témoins joints dans la localité de Paoua affirment que des assaillants, dont l'identité reste inconnue, seraient venus du Tchad. Ils étaient lourdement armés et ont brûlé des dizaines de maisons dans 9 villages. Au moins 20 personnes ont été tuées. Aussi, des accrochages se sont produits ces derniers jours sur l'axe Sibut-Bambari, mais le calme est revenu à Grimari après de violents combats entre les anti-Balaka et les ex-Seleka. Il y a eu au moins 22 morts et plusieurs blessés. Malgré l'insécurité, Catherine Samba-Panza, présidente de la transition, envisage le retour volontaire et progressif des déplacés de Bangui.
Nous voulons encourager le retour des déplacés dans leur zone de résidence d'origine, mais bien entendu, il faut au préalable avoir résolu en partie le problème de l'insécurité. L'un des palliatifs, de faire jouer la solidarité familiale pour que ceux qui peuvent accueillir certains membres de leur famille puissent les accueillir déjà, et puis qu'on essaye de voir la mise en place des centres de transit pour désengorger un peu certains sites.
Au quartier PK5, les activités ont repris timidement après la réouverture de l'avenue Goudoukou, fermée depuis plus de 3 mois, et le Tchad a annoncé avoir achevé le retrait de ses troupes.
L'insécurité persiste à Bangui, mais certains dans la société civile pensent que la situation s'améliore de plus en plus dans la capitale centrafricaine. C'est le cas du professeur Bobossi Serengbe Gustave. Il est recteur de l'université de Bangui. Il répond aux questions d'Idriss Fall.
Je l'ai dit, hein, les génies, parce que je suis là à Bangui depuis le déroulement des événements jusqu'à ce jour. Et la tension qui a prévalu à Bangui avec les affrontements qui ont eu lieu à partir du 5 décembre violents, avec la fuite de la population qui s'est réfugiée au niveau des sites. Et à ce jour, au mois d'avril, à mes yeux, beaucoup d'efforts ont été faits et il y a eu une accalmie. Et de mon fort intérieur, j'ai dit qu'il y a un légionnaire de ce que je constate.
Mais on nous dit aussi qu'il y a des populations musulmanes qui sont comme prises au piège dans certains quartiers, notamment au kilomètre 5, au PK12.
Visiblement, effectivement, ils sont pris dans le piègement. Ils se sont retrouvés dans un quartier populaire et qui constitue le poumon économique. Et pendant des mois et des semaines, il y avait des actions de part et d'autre. Les anti-Balaka tentaient de les agresser et eux aussi ils ripostaient. Mais je dis visiblement qu'avec les actions qui sont menées actuellement, à savoir le départ des troupes tchadiennes, la pression des organisations internationales, la pression des États-Unis, la présence des Sangaris et bien sûr la force Ruska, et avec la volonté politique de nos autorités, nous avons l'impression que actuellement, il y a un apaisement, la population s'est apaisée, les armes se sont tues et progressivement, de part et là, le dialogue reprend. Donc, au niveau de ceux qui sont pris dans ces enclaves-là, je pense progressivement avec ce qui se passe, visiblement, le dialogue aura bel et bien lieu entre nous.
Et qu'en est-il de l'intérieur du pays? Parce qu'on avait parlé d'affrontements à Bria, à Grimali et dans d'autres coins à l'intérieur du pays.
Mais je vous disais qu'effectivement, en ce qui concerne l'intérieur du pays, les troupes Sangaris, malgré le départ des troupes tchadiennes, les troupes Sangaris et les forces de la Niska sont en train de pacifier le pays. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'ils progressent vers le nord et vers là où il y a eu la présence des forces Seleka, il y a des poches de résistance. Mais concrètement, je vous ai dit que depuis le départ des troupes tchadiennes et avec tout ce qui se passe, même les forces de la Seleka sont en train de revenir à la raison et progressivement, ils acceptent le dialogue et avec les forces d'interposition et aussi de l'autre côté, les forces anti-Balaka se sont tuées, ils ont apaisé leur tension, ils ont fait apaiser la tension. Et à l'heure actuelle, à l'intérieur du pays, depuis ces derniers jours, les nouvelles ne sont pas si alarmantes. Je ne suis pas spécialiste de forces militaires, mais des informations que nous recevons et de ce que nous constatons, à l'intérieur, il y a un apaisement progressif qui s'installe.
Et l'ONU qui se donne jusqu'au 15 septembre pour envoyer des casques bleus, est-ce que vous ne pensez pas que cette date est un peu éloignée, non? Ou bien...
Bon, c'est le 15 septembre, ça c'est l'arrivée des troupes, mais je pense que les actions qui sont menées actuellement sont de nature à prévenir les prochaines crises et que de ce qui se passe, il faut pacifier le pays en prévision à des futures attaques et à des futures réactions de combat. Et donc l'arrivée d'ici le 15 septembre, on peut voir que c'est loin, mais il y a un travail qui se fait puisque progressivement la population se prépare à l'arrivée de ces troupes onusiennes, puisque véritablement la RCA est un pays qui a été brisé. Tout est à zéro, tout est à refaire. Donc, il faut que ces troupes arrivent pour stabiliser dans quel commence ce pays. Mais avec le travail qui se fait actuellement, il faut compter que la population doit être éduquée et se préparer à la renaissance de ce pays à travers les actions qui vont être protégées par les forces des Nations Unies et l'appui des forces internationales et de la société internationale qui va nous soutenir pour favoriser le développement de ce pays. Voilà.
Comme le pays n'a jamais connu de conflit religieux, est-ce que vous pensez que la réconciliation sera possible entre chrétiens et musulmans?
Merci. Mais je pense, mais beaucoup de Centrafricains le pensent, qu'en réalité, ce conflit, nous le disons, n'a jamais été un conflit interreligieux. Mais les connotations que les hommes politiques ont mis dans cette bataille, dans cette crise entre eux, ont mis en face à face les chrétiens et les musulmans. Mais à l'heure où je vous parle, une bonne partie de la population centrafricaine musulmane s'est retirée du pays. C'est un manque à gagner pour ce pays. Et ceux qui sont restés veulent la réconciliation du côté musulman et les chrétiens aussi se battent pour que dans quelques mois et quelques années, ceux qui sont partis et qui sont des centrafricains musulmans doivent revenir. Et par ricochet, ceux qui ont connu la RCA et l'ont adopté comme leur pays d'origine et qui sont musulmans, doivent progressivement nous rejoindre. Donc, c'est un travail de réconciliation qui doit se faire avec tous les paramètres.
Le professeur Bobossi Serengbe-Gustave, recteur de l'Université de Bangui. Voilà, c'est tout pour cette fenêtre sur la Centrafrique ce soir. Ici, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec dans ce segment spécial sur la Centrafrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Une sécheresse persistante a fait des ravages au plan alimentaire au Zimbabwe. La communauté internationale fournit de l'aide humanitaire à ce pays chaque année depuis 2000, année où la production agricole a commencé à tomber. Le maïs, aliment de base de ce pays d'Afrique australe, a été particulièrement affecté. À 2 mois de la récolte de 2014 et alors que jusqu'à 2,2 millions de Zimbabwéens font face à une autre saison de famine, les États-Unis ont fourni 4 millions de dollars au Programme alimentaire mondial, des fonds que l'agence onusienne ajoutera à d'autres pour financer la distribution de la nourriture, essentiellement des céréales achetées dans la région, ainsi que de l'huile et des légumes secs importés. Certains transferts de fonds sont également opérés vers des zones sélectionnées pour donner aux gens une flexibilité au plan alimentaire et à aider à soutenir les marchés locaux. L'ambassadeur Bruce Wharton a annoncé le nouveau don américain le 11 février lors d'une visite à Umguza dans le Matabeleland Nord, l'une des 4 provinces du pays où la situation alimentaire est catastrophique. Ce financement supplémentaire porte le total de l'aide alimentaire américaine au Zimbabwe pour la saison 2014 à 29 millions de dollars. Une aide supplémentaire est à venir pour aider le gouvernement zimbabwéen à assister près de 20 000 personnes déplacées par les inondations dans le sud du pays. Les villageois vivant dans le bassin d'un énorme barrage en cours de construction dans la province de Masvingo ont été les plus touchés. Après consultation avec l'unité de protection civile, le principal organisme zimbabwéen de secours aux sinistrés, l'Agence américaine pour le développement international, a dépêché une équipe d'évaluation des catastrophes dans le pays. La mission américaine à Harare surveillera la situation étroitement et identifiera les besoins supplémentaires qui pourraient surgir.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.